Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire Big Malion a été jugée du 20 mai au 22 juin par le tribunal correctionnel de Paris. C'est l'affaire du dépassement de 20 millions d'euros de la campagne de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle de 2012. La décision sera rendue le 30 septembre. Le parquet a demandé un an de prison, dont 6 mois avec sursis, à l'encontre de l'ancien chef de l'État. Après un premier épisode consacré au rappel des faits, Code Source vous raconte aujourd'hui le procès Big Malion avec Pascal Aigret du service politique. Police-justice du Parisien. On avait déjà consacré un épisode de Code Source à l'affaire Big Malion. Je vous conseille vivement de l'écouter, si ce n'est pas encore fait, avant de vous plonger dans celui-ci sur le procès. Pascal Aigret, on rappelle l'essentiel malgré tout en quelques mots. L'affaire Big Malion, c'est l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle de 2012, quand il était justement président sortant. Et en résumé, le candidat a trop dépensé, c'est ça ?
Le candidat a trop dépensé. Pour toute élection présidentielle, il y a un plafond à respecter. En l'occurrence, il était à peu près de 22 millions d'euros. Et ce qui va être mis au jour 2 ans après cette présidentielle, c'est qu'en fait, Nicolas Sarkozy a dépensé 20 millions d'euros de plus et que cela a été dissimulé.
Alors, que s'est-il passé d'après l'accusation ?
D'après l'accusation, il y a eu toute la mise en place d'un double système de fausses facturations. D'une part, avec l'agence de communication qui était chargée d'organiser les meetings, qui s'appelle l'agence Big Malion, et sa filiale Event, ça pour plus de 16 millions d'euros, et une autre fraude organisée au sein même du parti, de l'UMP, qui a consisté tout simplement à escamoter des factures pour un montant total de 3,5 millions d'euros, ce qui fait bien au final 20 millions d'euros.
Et donc l'UMP a payé une grosse partie des dépenses du candidat Sarkozy, c'est ça ?
Tout à fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'imputer les frais de campagne à l'association de financement, ce qu'exige la loi, ces factures ont été réglées par l'UMP à Big Malion.
Dans l'actualité politique de ce jeudi, cette enquête du journal Le Point qui fait du bruit.
Le point de départ de cette affaire, c'est en 2014, un article du Point en février qui laisse penser que le patron de l'UMP à l'époque, le secrétaire général du parti, Jean-François Copé, s'est constitué un trésor de guerre.
Oui, cette une, elle est extrêmement violente puisqu'elle accuse Jean-François Copé d'avoir volé l'UMP. Il faut dire que les finances du parti, après toute cette campagne, sont vraiment à sec. Mais en l'occurrence, Le Point met la puce à l'oreille de la justice puisqu'elle ouvre une enquête, mais il se trompe en fait. Les vraies révélations viendront plus tard, quelques mois plus tard en mai, de Libération qui parle de conventions bidons qui pourraient avoir des titres crédibles, par exemple sur le microcrédit, sur la politique en Afrique, mais qui en réalité ne se sont jamais tenues, encore moins pendant cette période-là.
L'enquête a duré des années et elle a écarté l'hypothèse d'un enrichissement personnel ou de la création d'une cagnotte de guerre pour Jean-François Copé.
Oui, cette hypothèse a été complètement écartée par l'instruction qui d'ailleurs a conclu à un non-lieu pour Jean-François Copé.
Finalement, 14 personnes se retrouvent sur le banc des prévenus dans cette affaire. Quels sont leurs profils ?
On a plutôt des hommes d'affaires avec les anciens dirigeants de Big Malion, ils sont 4, d'anciens cadres de l'UMP, soit des très proches de Nicolas Sarkozy, soit des très proches de Jean-François Copé à l'époque, ou d'anciens proches de Xavier Bertrand, enfin en tout cas ils sont plutôt dans le giron politique. Et on a aussi tout ce qui est le mandataire financier, les responsables de l'association de financement et les experts comptables, parmi lesquels figure quand même un ancien questeur de l'Assemblée nationale. Et et puis le directeur de campagne Nicolas Sarkozy, qui lui est un préfet.
Le prévenu le plus connu, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui vient d'être condamné dans l'affaire des écoutes, l'affaire Paul Bismuth, à 3 ans de prison, dont un ferme, une décision dont il a fait appel. Mais pour ce nouveau procès, il a choisi de venir le moins possible.
Il a choisi de ne venir que pour le jour où il va être interrogé par le tribunal. En droit, un prévenu qui encourt moins d'un an de prison, ce qui est son cas, peut ne pas se présenter. Et surtout, le tribunal peut ne pas l'obliger à venir à la barre du tribunal. Donc il a fait le choix d'en profiter.
Il est au cœur du procès Big Malion. Il en est surtout le grand absent. Comme il en avait le droit, Nicolas Sarkozy ne s'est pas rendu au tribunal judiciaire de Paris ce jeudi.
Pascal Aigret, décrivez-nous l'atmosphère juste avant l'ouverture du procès, le jeudi 20 mai, au tribunal correctionnel de Paris.
L'ambiance, déjà, elle est ultra sécurisée. Comme il s'agit d'un procès où doit se présenter potentiellement un ancien chef de l'État, il y a beaucoup de policiers. Ils ont aussi fait appel à des vigiles. On est fouillé, on doit ouvrir nos sacs. On est même passé au détecteur de métaux. Donc tout ça prend un certain temps. Il y a énormément de monde. Ils ont ouvert d'autres salles de retransmission parce qu'on se demande si oui ou non Nicolas Sarkozy sera présent ce premier jour.
Le premier après-midi d'audience est consacré à des questions de procédure et à un moment, la présidente du tribunal, Caroline Viguier, appelle Nicolas Sarkozy.
Oui, elle procède, ça c'est la forme classique au début d'un procès correctionnel, à ce qu'on appelle l'appel des prévenus. Et elle fait exactement ce qu'elle avait fait au faux départ du procès en mars, c'est-à-dire qu'après avoir appelé les 13 premiers, elle appelle le 14e, Monsieur Nicolas Sarkozy. Et elle a bien vu que la chaise était vide, mais elle fait comme si elle ne l'était pas.
Un peu plus tard, toujours pendant cette première après-midi d'audience, les avocats de deux prévenus demandent de nouvelles enquêtes sur Jean-François Copé. Ils présentent des documents qui prouvent, selon eux, que Jean-François Copé, en tant que patron de l'UMP à l'époque, était forcément au courant des fausses factures.
Ils présentent plusieurs documents, dont un contrat de prêt souscrit par l'UMP juste après la campagne présidentielle en août 2012. Il s'agit de 55 millions d'euros que l'UMP veut emprunter auprès d'une banque. Et parmi les raisons pour lesquelles ils disent on a une dette, figure 20 millions d'euros de dépenses de meeting.
Pour ces avocats, ça prouve quoi ?
Le but de ces avocats, c'est essentiellement de remettre le nom de Jean-François Copé dans le procès, c'est-à-dire de suggérer qu'il savait dès 2012 qu'il y avait eu un gros souci dans cette campagne.
Est-ce que ces plaidoiries entraînent des réactions ?
Oui, principalement celle de l'avocat de Jérôme Lavrieux, qui est l'ancien bras droit de Jean-François Copé et l'ancien directeur adjoint de la campagne. Donc son avocat, Christian Saint-Palais, se lève, prend la parole et dit « Oui, c'est le retour des vieilles lunes, toujours cette histoire de trésor de guerre que l'instruction en fait a écarté. »
Le mercredi 26 mai est consacré à l'audition de l'un des prévenus, l'homme qui organisait les meetings du candidat Sarkozy, l'un des cadres de Big Malion, Franck Attal. Quel rôle il avait dans cette campagne en 2012 ?
Au sein de Big Malion, il était l'un des dirigeants, mais celui en particulier de leur filiale événementielle Event. Franck Attal, en fait, on le voit sur toutes les images où Sarkozy monte sur la tribune, puisque c'est lui qui lui donnait le top départ pour qu'il arrive près du pupitre.
J'imagine que la présidente du tribunal l'interroge sur l'organisation des meetings.
Oui, il est le premier en fait à expliquer à quel point justement ça n'était pas organisé. Il parle de meetings qui sont commandés 9 jours avant, que ça représente l'équivalent d'un terrain de football à installer dans un temps record. Alors lui est passionné par sa matière, donc il explique les écrans, les pupitres, les signaux IFI, les techniciens, les traiteurs. Mais elle, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, la présidente, c'est de savoir mais ah bon, il n'y avait pas de contrat cadre, rien n'était programmé à l'avance, rien n'était donc budgété non plus. Est-ce que vous aviez une idée de combien ça pouvait coûter à l'avance ? Et lui répond non, pas du tout. Par contre, ce qu'on nous avait demandé, c'est qu'il fallait que ça pète.
Franck Attal se souvient aussi d'une réunion à l'UMP en 2014, juste après les révélations de Libération.
Oui, il est très surpris parce qu'il reçoit un appel de Fabienne Liadze, qui est une cadre de l'UMP, et qui lui dit ben voilà, Jean-François Copé veut te voir dans son bureau demain, au siège du parti. Il s'y rend, Jean-François Copé rentre, s'adresse à lui et lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Franck Attal se dit mais quoi ? Jean-François Copé n'est pas au courant. Il a l'impression, dit-il, d'une supercherie. C'est-à-dire une mise en scène de la part de Jean-François Copé pour montrer qu'il n'était pas au courant. il est encore plus surpris parce que lui, sa conviction, c'est que à l'UMP, tout le monde savait, de la tête du parti au plus petit salarié.
Deux jours plus tard, le vendredi 28 mai, c'est l'interrogatoire de l'ancien patron de Big Malion, Bastien Millot, 48 ans. C'est l'un des principaux prévenus. Lui, qu'est-ce qu'il dit sur le système de fausses factures ?
On sait qu'il a nié pendant toute l'instruction avoir été au courant du système de fausses factures. Et on se demande si le procès n'est pas le moment pour lui de reconnaître quelque chose, d'autant qu'il passe après les trois autres qui ont dit que oui. Et non, il persiste à nier et il dit qu'il ne connaissait pas l'existence de ce système de fausses factures.
Est-ce qu'il vous semble sincère à la barre ?
Non, il est même presque un peu pathétique parce qu'il se lance dans des explications en berlificotées de ses soi-disant mauvaises relations avec Nicolas Sarkozy pour montrer qu'il se désintéressait complètement de cette campagne qui représentait pourtant un très beau marché pour son entreprise.
Le lundi 31 mai, une autre prévenue est entendue à la barre. C'est la directrice des ressources de l'UMP à l'époque, dont on a déjà parlé, Fabienne Liadze, 47 ans. Qu'est-ce que l'on espère de cet interrogatoire ?
De la même manière, on en espère une sincérité. Fabienne Liadze va, donner un peu la méthode qui sera celle de tous ceux qui nient. C'est-à-dire, elle dit « Non, mais je n'avais pas vraiment des responsabilités importantes au sein de l'UMP. Je ne m'intéressais pas du tout aux questions financières. Et quand je m'y intéressais, j'avais toujours l'aval de quelqu'un d'autre. » Donc, elle se place aussi sous couvert de sa hiérarchie.
Elle dit qu'elle ne s'intéresse pas aux aspects financiers alors qu'elle est directrice des ressources de l'UMP ?
Oui, elle se positionne comme une spécialiste des ressources, mais des ressources humaines. Et elle dit que pour le reste, il y a un trésorier, le directeur général de l'UMP, il y a d'autres interlocuteurs. Et si elle signe les engagements de dépenses, parce qu'on lui présente des engagements de dépenses, elle signe, mais parce que ça a été validé par d'autres. Donc elle dit ça représente des millions, mais j'ai l'aval et je signe.
L'un des visages de ce dossier, c'est Jérôme Lavrieux. Il est interrogé le vendredi 4 juin, l'ancien bras droit de Jean-François Copé à l'UMP, ancien directeur adjoint de la campagne Sarkozy. C'est lui qui avait reconnu les fausses factures sur BFM TV en direct, parfois au bord des larmes, le 26 mai 2014 au soir.
Il y a eu un dérapage sur le nombre d'événements qui ont été organisés dans le cadre de cette campagne.
7 ans plus tard, il est comment à la barre ?
À la barre, Jérôme Lavrieux, on sent quelqu'un qui est prêt à se défendre, qui n'entend pas porter le chapeau pour tout le monde, ce qui est un petit peu sa crainte, puisqu'il est l'un des rares à un très haut niveau dans la campagne à avoir admis participer au système de fausses factures. Donc il est à la fois combatif et marchant sur des œufs, un peu stressé.
Une nouvelle fois, il reconnaît les faits.
Mais lui dit qu'il aurait était au courant du système de fausses factures seulement à la fin de la campagne, après le deuxième tour de l'élection le 6 mai. Et non pas, comme l'enquête tend à le démontrer, dès la mi-mars, c'est-à-dire très tôt dans la campagne. Ce qui est peut-être une façon encore de se protéger lui et de protéger aussi son ancien patron, Jean-François Copé.
En 2014, il avait couvert Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy en disant qu'il n'avait pas parlé avec eux du système de fausses factures. À l'audience, la présidente du tribunal lui demande à nouveau qui a décidé de faire payer à l'UMP une grande partie des frais du candidat Sarkozy ?
Oui, la question, évidemment, elle est clé et on n'a toujours pas la réponse. C'est qui a décidé d'organiser ce système ? On la lui pose. Et en fait, il ne le dit pas. Il dit c'est le fruit d'une décision collective.
Il est relancé ?
Oui, il est relancé et il reste assez flou, toujours, mais en expliquant qu'en dépit des notes d'alerte des experts comptables et surtout de la première, celle du 6 mars, qui parle presque déjà d'un dépassement, le rythme des meetings va s'accélérer. Et qui prend la décision d'accélérer le rythme des meetings, dit-il, c'est l'Élysée, le candidat. Donc, d'une certaine manière, il pointe le doigt vers Nicolas Sarkozy.
Le jeudi 10 juin, c'est un jour très important puisque Jean-François Copé vient témoigner à la barre. Lui qui a bénéficié d'un non-lieu, mais dont le nom est régulièrement cité depuis le début du procès. Quel est son état d'esprit ?
Il est vraiment en mode combatif, comme s'il se défendait alors qu'en fait il n'a pas à le faire. Mais il dit que ses oreilles ont sifflé beaucoup et donc il va répondre à toutes les questions.
Il revient sur le moment où l'affaire a éclaté, d'abord dans Le Point en février 2014, puis dans Libération au mois de mai.
Il dit que l'article du Point ne l'a pas tellement inquiété parce qu'il a vu ça comme une attaque politique et que celui de Libération, en revanche, alors là, il tombe des nues, qu'un système de fausse facturation aurait existé, qu'il ne comprend pas et qu'il cherche à comprendre et pour ça, il va appeler plusieurs personnes. La première, c'est Fabienne Liadze, donc Et il parle de cette réunion, il donne sa version de cette réunion dans le bureau en disant « mais ça a duré plus longtemps ». Et il m'a expliqué, donc Franck Attal, que les dépenses avaient filé et qu'il avait fallu trouver un système pour dissimuler leur explosion.
Franck Attal a parlé d'une supercherie concernant cette réunion. Jean-François Copé est interrogé là-dessus.
Oui, on lui demande, mais pourquoi vous demandez à Franck Attal et pas aux autres dirigeants de Big Malion que vous connaissez mieux, Bastien Millot et Guy Alves? Il dit, mais vous comprenez bien que je n'avais plus confiance en personne. Et d'ailleurs, il explique aussi qu'il ne voit Jérôme Lavrieux, qui est pourtant son bras droit, que deux jours après, le dimanche. Et que là, Jérôme Lavrieux lui confirme l'existence de cette explosion de dépenses et de cette idée folle, dit-il, qui a surgi pour la dissimuler.
Et donc, à l'entendre, il découvre tout ça dans Libération, 2 ans plus tard.
Il réaffirme la position qu'il a toujours tenue. Il n'était au courant de rien. Tout lui a été dissimulé. Il dit d'ailleurs qu'en gros, s'il avait été au courant, s'il avait été informé, il aurait mis un terme à tout ça.
Le procureur lui rappelle aussi que le 24 mai 2014, il va voir Nicolas Sarkozy.
Oui, le procureur lui demande « détaillez-moi un petit peu le contenu de cette entrevue ». Jean-François Copé dit « c'était un moment très pénible pour moi et sans doute pour lui aussi ». Nicolas Sarkozy lui aurait dit qu'il n'y croyait pas tellement et Jean-François Copé lui aurait dit « mais si, c'est la vérité ». Et il n'en dit pas plus.
Le mardi 15 juin, finalement, c'est au tour de l'ancien président et ancien candidat Nicolas Sarkozy d'être entendu. Racontez-nous son arrivée dans la salle d'audience.
Il entre par la porte qui est réservée aux prévenus et aux avocats, c'est-à-dire la porte de droite pour la salle. En fait, la géographie de la salle d'audience a été un peu revisitée pour son audition, puisqu'on a demandé aux autres prévenus de se mettre un peu plus loin pour placer ne serait-ce que ses gardes du corps. Il a son avocat juste derrière lui. Et ses communicants au deuxième rang de la salle. Mais il y a un grand silence. Tout le monde attend que l'absent du procès, enfin présent, s'exprime et s'explique. Le tribunal rentre et la présidente l'appelle à la barre. Monsieur Nicolas Sarkozy, voulez-vous bien venir à la barre ? Et ensuite, on assiste à plusieurs heures d'un interrogatoire où il est debout, face au tribunal comme s'il était sur la tribune d'un meeting. Il regarde à droite, à gauche, comme s'il cherchait des soutiens du regard. Donc pas forcément son avocat, mais parfois il se retourne même vers son ancien directeur de campagne dans la salle. Il mouline des bras, il hausse des épaules, il parle de façon parfois très véhémente. De temps en temps, il rebaisse le ton. En fait, on voit Nicolas Sarkozy tel qu'on le connaît.
La présidente du tribunal, Caroline Viguier, le recadre par moment ?
À chaque fois, elle réinsiste. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il s'énerve un petit peu, parce qu'elle repose une fois, deux fois, trois fois la question. La campagne était organisée comment ? Mais est-ce que c'est vous qui décidiez du nombre de meetings ? Mais est-ce que vous avez vu ou pas ces fameuses notes d'alerte des experts comptables ? Et est-ce que vous en avez tenu compte ? En gros, lui répond en disant... Moi, j'étais encore président de la République en exercice, ma tâche était lourde. J'avais constitué une équipe de campagne pour rassembler. Il y avait Jean-François Copé à la tête du parti. Je m'occupais de la stratégie politique et pas de la sono, des devis, des factures à signer. Et il dit, je n'ai jamais vu Jacques Chirac signer une facture, je n'ai jamais vu Édouard Balladur signer une facture. Et il cite même François Hollande, je n'ai jamais vu François Hollande signer une facture.
Il dément aussi l'idée d'un emballement de sa campagne en 2012.
Oui, pour lui, la campagne de 2012 est la sœur de la campagne de 2007. Même s'il concède qu'avec les chaînes d'information en continu, qui sont beaucoup plus présentes en 2012 qu'en 2007, c'est forcément un petit peu différent. Il faut fournir des images de qualité. Mais l'idée d'un emballement, il la réfute. Il dit que ce serait faire insulte à mon expérience politique, de croire que je voulais faire que 4-5 meetings, point. Évidemment, on en avait prévu beaucoup plus. C'est 44, c'est à peu près le même nombre qu'en 2007.
Et pour lui, sa campagne n'a pas coûté spécialement cher.
Oui, il essaie d'expliquer par exemple que à Villepinte, c'est un hangar et que donc on lui parle de la scène qui aurait coûté beaucoup d'argent, mais il dit mais comme c'est un hangar, il faut bien une scène parce que sinon comment le candidat peut parler à 70 000 personnes au milieu de la foule. Il dit mais elle est où la campagne somptueuse ? Elle est où la campagne en or massif ? Ça se serait vu, j'avais la moitié de la presse contre moi, ils auraient dit que ça dégoulinait d'argent, qu'on offrait du caviar aux militants. Pour lui, non, la campagne n'a pas coûté plus cher.
Alors comment est-ce qu'il explique le dépassement de plus de 20 millions d'euros de sa campagne.
Ce qu'il suggère, c'est que les 20 millions d'euros de dépassement ne sont pas allés à sa campagne. Ces 20 millions seraient allés ailleurs. En l'occurrence, ce qu'il suggère fortement, c'est que ça aurait servi surtout à enrichir les dirigeants de Big Malion.
Pascal Aigret, le jeudi 17 juin, c'est les réquisitions, les procureurs annoncent les peines qu'ils demandent. Décrivez-nous ces réquisitions.
Le ton de ces réquisitions est très sévère, voire par moments cinglant. Et ce ton sévère, ils l'ont pour l'ensemble des prévenus, dont ils suggèrent qu'ils ont beaucoup menti, mais aussi surtout pour l'ancien chef de l'État. Ils disent par exemple que Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, devait faire montre d'une probité exemplaire et que ça n'a pas été le cas. Ils disent même qu'il aurait porté atteinte, en bénéficiant de ce système, aux valeurs de la démocratie républicaine. Donc le ton est vraiment très sévère.
Ils demandent des peines de prison avec sursis, entre 18 mois et 4 ans pour la plupart des prévenus, dont Jérôme Lavrieux, 3 ans avec sursis, 2 ans, dont un an ferme à l'encontre de l'ancien patron de Big Malion, Bastien Millau. Que disent-ils concernant Nicolas Sarkozy ?
Concernant Nicolas Sarkozy, ils disent « Nous allons demander sa condamnation et une peine de 1 an de prison ferme. » Donc là, tout le monde retient son souffle. Avec 6 mois de sursis, ce qui veut dire qu'il requiert une peine de 6 mois de prison ferme.
C'est une peine sévère qui est demandée à son encontre ?
Symboliquement, c'est une peine sévère. 6 mois ferme requis à l'encontre d'un ancien président de la République. Et ce, d'autant plus que Nicolas Sarkozy est le seul avec Bastien Millau à l'encontre de qui une peine de prison ferme est requise.
Pascal Aigret, l'instruction n'avait pas permis de dire qui avait demandé ou donné son feu vert à ces fausses factures après la campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce que le procès a permis de répondre à cette question ?
Non, les 5 semaines d'audience ont permis de vraiment mieux comprendre le mécanisme de la fausse facturation. Mais quant à savoir qui a ordonné ce système, qui a donné son feu vert, on ne le sait toujours pas.
Merci à Pascal Aigret. Cet épisode a été préparé avec l'aide de Clara Hage, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Prime members, you can listen to this show ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.